cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 31 mai 95.
Réfléchissons sur les différentes expériences, parce que là il s'agit d'expériences de l'unité. Alors prenez la première expérience dans l'ordre artistique, parce que c'est un des aspects qui est très curieux. La critique première qu'on fait dans une œuvre d'art, c'est le manque d'unité. Voilà une expérience curieuse, intéressante. De disons quelque chose, ça manque d'unité. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Et c'est une expérience négative. Voilà quelque chose, c'est très riche. Beaucoup de trouvailles. Il y a des intuitions. Mais ça manque d'unité. Et ça, je crois que nous faisons tous cette expérience dès qu'on a un certain sens de ce que représente une œuvre d'art. En peinture, en sculpture, au point de vue alors du théâtre encore plus. Saisit tout de suite que l'œuvre d'art réclame une unité. Alors, par le manque d'unité, on veut dire justement qu'il y a quelque chose qui fait ça manque d'harmonie. Alors, l'harmonie est une sorte d'unité. Puisque nous cherchons philosophiquement qu'est-ce que c'est que l'unité. Nous prenons une certaine expérience. Et presque toujours, voyez, c'est ça qui est intéressant à voir au point de vue philosophique, que presque toujours c'est avec le point de vue artistique que, de fait, nos expériences sont le plus manifestes. La distinction de la forme et de la matière se prend du côté artistique. Alors, est-ce que l'unité se ramène à cela? On voit que lorsque la matière n'est pas entièrement dominée par la forme artistique, ça manque d'unité. Un point de vue sculpture, c'est très net. On a la bûche qu'on est en train de travailler pour en faire une statue. On ne la domine pas entièrement. Il y a là. Et quelquefois, on le fait exprès, au point de vue moderne. C'est un des trucs modernes. On aime le point de vue sauvage, brutal. Et on fait quelque chose comme ça. Que quelqu'un qui... Vous voyez, poilot, l'unité dans l'œuvre d'art, ça c'est l'unité. Le français est très sensible à l'unité. Mais ça peut tomber dans l'uniformité. Alors, c'est un peu ennuyeux. Le passage de l'unité à l'uniformité. L'uniformité, c'est lorsque l'unité est dans l'ordre matériel, quantitatif. Alors, la répétition, c'est l'uniformité. Une répétition trop forte, c'est uniforme. Mais ce n'est pas l'unité. Alors vous voyez tout de suite, là, le passage entre les deux. Pensez à l'uniformité d'une sculpture et son unité. L'unité, c'est une sorte de victoire. cette histoire de l'uniforme, de la diversité, vous tombez dans l'uniformité. Au fond, l'uniformité, c'est une matérialisation de l'unité. Donc l'unité vient de la forme, de l'expression, et non pas du tout de la matière. La matière est source de chaos, d'indétermination. Alors vous pouvez dominer l'indétermination par l'uniformité. Quand vous manquez de génie, quand vous manquez d'inspiration, c'est ce que vous faites, c'est ce qu'on fait automatiquement. Un phénomène de répétition, ça peut être intéressant, mais c'est très matériel. Parce que l'uniformité vient de la quantité. Mais essayez d'aborder le sujet de l'unité, de la multiplicité, dans la forme d'art que vous aimez le plus. Point de vue musical, point de vue architecture. On dira, c'est fait de pièces et de morceaux. On voit très bien ce que ça veut dire, ça. Les châteaux de la Loire, avec son et lumière, on monte tous les morceaux successifs. Après, on monte l'unité. Oui, ça tient à peu près, mais pas tout à fait ce qu'on aurait aimé. Il y a quelque chose qui est très visible en architecture, en sculpture. Et là où la matière demande d'être dominée, et l'unité, c'est une manière de dominer la diversité. C'est pour ça que je crois, au point de vue artistique, que la véritable unité, c'est toujours la victoire sur la diversité. Mais ça provient de la diversité. Et quand il n'y a pas la diversité, très vite on tombe dans l'uniformité. Et un chef-d'œuvre, une chose géniale, c'est quand la diversité est très grande, mais qu'elle est dominée, qu'il y a une grande victoire. C'est la victoire de la forme sur la diversité, sur la multiplicité. Donc, il y a ces idées, tout ça est attaché à l'unité artistique. Oui, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Et là, on peut être très moderne, on est très proche des modernes là-dessus, parce que c'est descriptif. C'est ça qui est intéressant, du reste, à voir. Ce que la scolastique avait laissé complètement tomber, il faut que nous revenions à une sorte de description de ce que c'est que le multiple, ce que c'est que l'unité dans l'œuvre d'art. Sculpture, peinture, architecture, musique, théâtre. Cette fameuse question de l'unité qu'Aristote lui-même, du reste, a retenue. Quand il dit que une œuvre au point de vue théâtral, quand il y a plusieurs actions diverses qui n'ont pas d'unité, où l'unité est complètement perdue dans la diversité, alors il manque quelque chose au point de vue artistique. Il manque cette domination diverse dans la vie. On connaît ça très bien, mais dans l'art, on ne pardonne pas ça. Mais quand c'est trop lent, alors, il y a une diversité très grande et on ne voit plus l'unité. Alors, il faudra comprendre comment l'unité, au point de vue artistique, est liée à une certaine victoire de la forme. Ça, c'est très net. La distinction de la matière et de la forme. La matière non dominée donne la multiplicité. Bon, première expérience, deuxième expérience. L'amour d'amitié, c'est très net. diversité des caractères. Au-delà de la complexité du vivant, on part dans tous les sens, on se laisse aller à des caprices. L'unité. Et on a l'impression qu'on aime de la briser. vis-à-vis de quelqu'un, on a l'expérience de l'unité. On s'aime. Et on a l'expérience que idem vel les. C'est très difficile à traduire le même vouloir. Mais le même vouloir par rapport au choix. On choisit le même chocolat. Le jour de Pâques, évident. On choisit le même gâteau. Ou on choisit le même chapeau. La mode. Pourquoi le même habit ? À la prise d'habit. Le même habit. Unité. Est-ce que c'est uniformité ou une unité ? Les gens qui assistent de l'extérieur, pas les parents, mais les gens qui assistent de l'extérieur, cette uniformité est assommante. Si au moins chacun choisissait sa couleur. Ce serait bien plus intéressant. On aurait la prise à vie des clowns. Et ce serait tout à fait autre chose. Déclin tous. On a rasé les têtes. Donc, des formes de crânes différents qu'on voit davantage. Mais les cheveux qui sont quand même quelque chose, qui ornent tête coupée. Et ça prend des significations différentes, vous savez bien. Dans certaines sectes, on peut dire, se raser la tête avec des couleurs différentes. Et là, pas de couleur. La couleur des cheveux, c'est tout. Qui apparaît, la couleur naturelle. Pourquoi l'uniformité de l'habit ? Ou l'unité de l'habit ? Moi, je n'aime pas dire l'uniformité. À la Chartreuse, je vous ai déjà raconté ça, quand on présente le lit du Chartreux, et que des grands Américains voient ça, disent, alors si j'entre là, mes pieds dépasseront. Et alors le guide, qui est un moine, dit, ne vous inquiétez pas, dans la vie commune, il y a une uniformité, et les gens qui sont trop grands leur coupent les pieds pour eux. L'uniformité. L'uniformité est quantitative. Et même dans l'amitié, même dans l'habit, l'unité est qualitative. Quand quelqu'un dit c'est un habit, il est toujours le même. Et on voit très bien ça dans la mode. Alors vous retrouvez l'art et vous quittez la durée. Si on aime, on est unis ensemble dans une communauté. L'habit, je ne dis pas fait l'unité, mais ça fait partie de l'unité. C'est très curieux ça. Et ça exprime l'unité. Quand vous êtes habitué de voir une communauté avec le même habit, et que cette communauté déraille et reprend un habit laïque, chacun prend quelque chose de différent. Alors, que représente l'unité profonde entre amis ? Idem valet, qui va jusqu'à l'habit. Je crois que c'est l'intention de vie, d'abord. On a le même but. Et c'est ça qui fait l'unité fondamentale. La réflexion d'un père abbé qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé, qui était passé ici, je ne dis pas de quelle abbaye, mais c'était un père abbé bénédictin. j'étais passé ici. Et qui m'avait écrit très gentiment, dit oh, j'aimerais beaucoup vous voir. Je suis passé à Saint-Jodard. J'aimerais vous parler. Je ne savais pas du tout ce que ça en était. Je le connaissais de nom, mais pas plus. Alors je suis passé le voir. Alors il m'a dit, vous ne savez pas la grâce qu'il y a à Saint-Jodard. C'était pas vous. C'était avant vous. Mais cette grâce continue. C'est l'unité doctrinale. Dans mon abbaye, chaque moine a ses opinions. Au point de vue de la doctrine. C'est effrayant. Il n'y a plus d'unité. Ils ont le même avis, mais il n'y a plus d'unité. L'habit cache la diversité. Alors, comme ils sont bénédictins, ils ne parlent pas beaucoup à l'extérieur. La congrégation, quelquefois, ça fait de la voltige. Mais ça ne se sait pas à l'extérieur. On croit qu'il y a l'unité. Et pour moi, il disait, pour moi, Père Abbé, c'est terrible. Et c'est pour ça, j'étais tellement émerveillé. Il dit, vous ne devez pas vous en apercevoir, vous. Mais c'est ce que Marthe avait dit. Il faut l'unité doctrinale en suivant le pape. Unité profonde. Bon, il y a des petites diversités, c'est évident. Parce que chacun, on tend vers cette unité diversement. Mais voyez, là, un phénomène d'unité profond. Qu'est-ce qui fait l'unité dans notre vie? C'est la recherche de la vérité. Mais d'une vérité totale. L'Esprit Saint nous conduira à la vérité totale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. Tant qu'il y a cette recherche de vérité, il y a l'unité. S'il n'y a plus la recherche de la vérité, c'est la diaspora. Et ça se voit tout de suite, ça, au bout de 10 ans de vie religieuse. Au début, il y a la ferveur. On sait que c'est une grande grâce d'avoir cette unité autour du Saint-Père. À la suite, tout ce qu'il dit confirme notre recherche. Et cette unité n'est pas seulement au point de vue doctrinal, au point de vue de la foi, mais elle touche aussi nos recherches intellectuelles. Marthe disait maintenez à tout prix cette unité. Alors, une unité là qui est très intérieure et qui est indispensable, je crois, dans l'amitié. Parce que quand il y a une diversité dans la recherche, dans le point de vue de l'intelligence, très vite la diversité se ressent du côté du cœur, du côté affectif. Si on a une vie contemplative, si on cherche une vie contemplative, et l'unité affective ne suffit pas. Parce que la sensibilité varie. Nos amours de 20 ans ne sont pas ceux de 40. Pas ceux de 15 ans, mais ça c'est normal. Tandis que la recherche de l'unité est la même. Donc cette recherche de l'unité fait une unité fondamentale dans notre vie. parfumé cet Idem Velle. Le Idem Velle ne regarde pas tel bien, tel choix. C'est le vouloir dans son intention de vie. C'est premier, ça. Et ce vouloir dans l'intention de vie fait une unité profonde, dans une très grande liberté de recherche, mais avec une très grande détermination à retrouver là, dans l'idem velle, la détermination vers la conquête de la vérité. Et je dis bien vers la conquête de la vérité. Se laisser posséder par la vérité. Et accepter par le fait même dépasser tout le point de vue de la diversité des images, de l'imagination. L'imagination laissée à elle-même n'a pas d'unité. Très curieux. On est dans des choses fantastiques. C'est le fantasme qui va dans tous les sens. Dès qu'il y a une recherche de vérité, tout est polarisé vers une orientation de vérité. Alors, de cette intention de vie, ça peut descendre dans divers aspects. Parce qu'il peut y avoir une unité de recherche. Recherche avec un désir d'entrer profondément dans une recherche philosophique. Ou au contraire, ce n'est plus une recherche philosophique, ça peut être une recherche historique. C'est plus la même chose, mais l'unité demeure au-dessus. Et réfléchissez sur l'expérience de l'unité dans l'amour d'amitié et tout ce qui vient être obstacle à cette unité, tout ce qui empêche cette unité et qui fait qu'on est dans la diversité. Qu'est-ce qui fait l'unité d'un noviciat? Le noviciat, on peut faire cette petite réflexion sur l'année qu'on a passée, sur les presque deux ans qu'on a passé. Qu'est-ce qui a fait l'unité? Et où, de fait, il y a eu peut-être des accros? Et on remarque cette chose très nette. C'est quand il n'y a plus cette unité, on fatigue beaucoup plus. C'est cette volonté de recherche de la vérité qui maintient une force, qui maintient des initiatives de recherche. S'il n'y a plus ça, on retombe sur la diversité affective qui fatigue. Fait des drames. Troisième expérience de l'unité au plan familial, vous voyez, c'est un peu le noviciat, mais pas tout à fait la même chose. Prenez au plan d'une famille. Comment deux êtres qui se sont quand même aimés pendant leur fiançailles, c'est leur noviciat, ils s'aiment, ils se sont découverts, ils se sont mariés, et le jour du mariage, c'était le sourire. Comment, quelquefois très vite aujourd'hui, l'unité se désagrège. la désagrégation qui mène à la séparation. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on doit regarder ça attentivement pour comprendre ce que c'est que la désagrégation d'une unité et comment cette unité qui existait au point de départ est perdue. Comment elle se perd? C'est un manque d'attention. On en est coupable. Faut pas trop le dire, parce qu'il y a la souffrance, mais il faut comprendre ça. T'es responsable de la croissance d'un amour. Cet amour au point de départ nous est donné gratuitement, très souvent. Très souvent. On ne sait pas pourquoi. Et on est responsable de la croissance d'un amour. Un amour doit être, un amour humain, doit être tout imprégné d'intelligence. C'est encore beaucoup plus vrai pour une vocation. Hein. Parce qu'il y aurait le même phénomène. Comment se fait-il que certains qui vraiment ont une vocation, il y a eu un appel de Dieu très très net. La vocation se désagrège. Un manque d'attention à la croissance de l'amour. L'amour est à la fois ce qu'il y a de plus fort dans toute notre vie et ce qui nous fragilise le plus. Il faut le savoir. Parce que par l'amour, on devient très vulnérable. Ceci est vrai dans le mariage. Ceci est vrai dans la vie religieuse, à des plans différents. Dans la vie religieuse, il s'agit d'un amour divin. Dans le mariage, il s'agit d'un amour humain. L'amour divin est beaucoup plus fort, mais il est toujours pour nous à l'intérieur de la foi. Et donc, il échappe souvent à l'expérience. On doit le savoir et on doit le reconnaître et on ne doit pas s'en étonner. Ça fait partie, j'allais dire, du mystère propre de l'amour divin. Alors ça échappe à la philosophie. Mais l'amour humain, lui, doit être toujours imprégné d'une conscience toujours plus grande. Vous voyez, quand on dirige ou qu'on aide amicalement les jeunes mariés ou les prépare au mariage, vous êtes très attentif à ça. La fidélité qualifie l'unité. Pas de fidélité sans unité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les tentations les plus fortes sont contre la fidélité. Très nettement. Peut-être parce que, de fait, l'amour n'a pas été assez loin dans sa force, dans son élan, et qu'on est resté à un point de vue très, très passionnel. Alors pourquoi y a-t-il fidélité dans l'amour spirituel? Pourquoi il n'y a pas de fidélité dans l'amour passionnel? Vous retrouvez le problème de l'unité. Au niveau passionnel, il n'y a pas d'unité. Au niveau spirituel, il y a une unité. Et plus on entre, plus l'unité se fait. Parce que l'aspect passionnel, c'est comme la matière par rapport à l'amour spirituel. C'est ce qui demande d'être travaillé, oui, c'est le levain et la pâte. Le levain est humain et la pâte est source de très grande multiplicité. Troisième domaine, au plan politique. C'est curieux. Alors là, vrai partisan extraordinaire comme au point de vue politique. On vient évidemment, vous étiez en dehors de tout ce point de vue politique de l'élection, mais ça discute, puis on entend parler. C'est très étonnant de voir comment l'aspect partisanal peut aveugler. Et donc, en quelque sorte, supprimer une unité personnelle. Je crois que très souvent, les passions politiques et le régime des partis est une chose terrible. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre moyen, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est lié nécessairement à la démocratie ? Ça, c'est une question politique très importante, mais c'est un fait que les anciens avaient très bien saisi ça. Combien la démocratie, qui est le régime qui favorise le plus la liberté, combien une fragilité politique terrible par le point de vue des passions, des partis qui divisent, qui fait que vraiment on n'a plus le sens politique, il n'y a plus le sens des partis. Et quelquefois, pour un rien, on passe d'un parti qui n'est pas du tout ce que profondément nous sommes. Et une discordance entre l'unité personnelle et le point de vue politique. Très curieux, ça aussi. Alors vous avez là une autre expérience, l'expérience de l'unité au niveau politique. Et je prends exprès cela parce que c'est quand même très important. C'est très important de voir ces divers types d'unités qui sont chaque fois différentes et à côté la multiplicité, à côté le manque d'unité, la disparition d'unité. Alors, au point de vue politique, donc au point de vue amitié, c'est un manque de fidélité. Alors, regardez là aussi la manière dont se qualifie l'unité et dans la manière dont se qualifie la multiplicité. Dans l'amour, l'unité se qualifie fidélité. Infidélité, traîtrise, drame, et ainsi de suite. Au point de vue politique, il y a aussi une fidélité. Mais c'est peut-être pas tout à fait la même fidélité. Il y a quelque chose de différent. Parce que l'unité n'est plus la même. La véritable unité politique, ce serait le bien commun. Oui, c'est la finalité. Qui ferait qu'au-delà des partis, on insiste plus sur le bien commun. Sur le bien des citoyens. Le bien de ceux dont on est responsable. Parce que quand on vote, on est responsable des autres. On oublie beaucoup trop ça. Parce que justement, on n'a plus le sens politique. La votation implique nécessairement qu'on est responsable des autres. On fait un acte de citoyen. Et donc, faisant un acte de citoyen, on n'est pas seul. On est lié aux autres. Et on devrait regarder les répercussions. Tout de suite, les répercussions que ça représente. Et qui peuvent conduire quelquefois à des répercussions extrêmement multiples et dangereuses. Parce que si on vote uniquement selon ce qu'on pense, nous, être le mieux, et que cela ne passe pas, on peut très, et on le sait d'avance, on peut très bien faire que notre voix soit perdue et que un parti diamétralement opposé passe. Oui, alors ça, c'est l'unité politique qui n'est pas du tout la même que l'unité au sens amical. parce que c'est l'unité dans la multiplicité. On ne va pas réclamer que tous les citoyens pensent de la même façon. Donc il faut accepter la diversité d'opinion en vue d'une unité de bien commun. Alors on voit la souplesse de l'unité au plan politique sans tomber dans l'unité machiavélique. Est encore autre chose. La fin justifie les moyens. Et donc ça va jusque-là. L'unité Machiavel. On dit, peu importe. Mais Dieu sait, c'est l'unité qu'on cherche, la finalité, le bien commun qu'on cherche. Puis le reste disparaît. Même le mensonge, c'est le bien. C'est curieux, ça. Ce qui montre, vous voyez, que à l'intérieur de l'unité politique, il y a une diversité d'opinions qu'on doit tolérer, qu'on doit admettre. Tandis qu'on ne l'admet pas du tout dans l'amour d'amitié. Et on ne pourrait pas l'admettre dans l'amour d'amitié. Donc vous voyez qu'il y a une souplesse morale, humaine, dans l'unité politique, qui est autre chose. Pousser jusqu'au bout, entrer dans l'aspect plus spéculatif de la philosophie. Oui, je regarde toutes les parties de la philosophie. Et dans toutes les parties de la philosophie, il y a une expérience de l'unité de la multiplicité. Je vous avais dit la dernière fois que certains disaient le problème de l'un et du multiple se retrouve dans toute la philosophie, dans toutes les philosophies, et je dis que dans toutes les parties de la philosophie, mais chaque fois diversement. L'art, l'amour d'amitié, la politique, la coopération. L'unité nécessaire en politique pour la coopération. S'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de coopération. Alors vous tombez dans les luttes, dans les rivalités. Et il n'y a plus que... C'est ça qui est terrible dans le point de vue des partisans. C'est qu'on ne voit plus que la rivalité. Et par tous les moyens, on essaiera que l'adversaire soit mis, exclu, peu importe celui qui passe. Le tout, c'est que l'adversaire ne soit pas là. Et quelquefois, cet adversaire uniquement individuel. Donc on ne dépasse pas une inimitié individuelle et on la fait passer au-delà du bien commun. Très curieux, l'unité politique est une chose très complexe et très intéressante à étudier, parce qu'on voit la complexité du point de vue politique. Si vous projetez l'unité morale, personnelle, sur l'unité politique, sur le point de vue politique, vous êtes un très mauvais politicien. Mais si vous tombez alors dans l'autre extrême, c'est de dire... Tout va bien, n'importe quoi. Alors il n'y a plus d'unité du tout. Au plan spéculatif, la philosophie de la matière. Voyez que la philosophie de la matière est source de la très grande diversité. La corruptibilité. C'est vrai, ça vient de la matière. Et la corruptivité, c'est la source fondamentale de toute division. Et au point de vue philosophie de la matière, vous voyez que l'unité de la terre, l'unité de l'air, l'unité du feu, l'unité de l'eau sont différentes. C'est très curieux, ça. L'unité du feu. Et le feu nouveau. L'unité du feu. C'est très beau de voir un feu qui monte. C'est dans sa montée qu'il éteint. Et plus il monte haut, plus on voit cette unité. L'unité de l'eau. C'est tout à fait autre chose. L'unité de la terre. Il y a une certaine unité là-dedans. lorsqu'il s'agit de la terre, la diversité l'emporte. Et que l'usure du temps fait la désagrégation. Et la désagrégation, c'est la perte de l'unité. Vous voyez, au point de vue de la vie, que l'unité, elle est dans la croissance. Et que dès qu'il y a vieillesse, il y a décroissance. Et l'unité du printemps, c'est une chose extraordinaire de voir ça. Tout se réveille. Surtout des printemps violents comme cette année-ci, tout se réveille. Et ça se réveille vite. Et alors, au contraire, quand ce n'est plus le printemps, quand les feuilles commencent à tomber, il y a une désagrégation, une corruptibilité de vie qui va jusqu'à la mort. Et la mort, la division. La mort, c'est la division, c'est la perte de l'unité. Alors vous arrivez là, à dire, mais au plan métaphysique, qu'est-ce que c'est que l'unité? Et je crois qu'il faut, quand il s'agit de l'unité, reprendre ce contact très simple. Alors, c'est très intéressant, en plus de ça, alors, notez ça au plan théologique. C'est que vous voyez que l'Esprit Saint, pour nous faire comprendre ce que c'est que l'unité de l'Église, qui est une des notes particulières de l'Église. Vous le dites tous les dimanches dans votre credo. L'Église est une. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Théologiquement. Alors, qu'est-ce que vous regardez dans l'Écriture ? Voyez que l'Esprit Saint se sert de l'unité artistique du Temple, de l'unité affective de l'amitié, époux-épouse, de l'unité politique, la cité de Dieu. On est citoyen de Dieu, si on est chrétien. De l'unité de la forme, de la doctrine. Il y a une unité. Pourquoi le dogme ? Parce que ça, c'est une des choses qui est la plus difficile à encaisser aujourd'hui. Alors l'Église fait très bien s'il n'y avait pas le dogme. Puis le dogme, c'est quand même un vrai problème. Eh bien, le dogme, c'est pour maintenir l'unité dans la recherche de la vérité. Et c'est capital. Si vous supprimez ça, vous supprimez cette recherche de l'unité dans la vérité. L'unité de vie. C'est la vie éternelle qui nous est promise. Et la vie ne peut se propager que dans les... Oui, c'est ça qui est très curieux et qui est très intéressant. C'est que lorsque vous regardez l'Écriture et que vous essayez de comprendre ce mystère de l'unité, vous voyez que l'Esprit Saint se sert de toutes nos expériences. C'est pour ça que c'est si important, vous voyez. Et au fond, le phénomène, le mystère de l'œcuménisme, ou le phénomène de l'œcuménisme, ça dépend de la profondeur dans laquelle on se trouve. Parce que quelques-uns regardent uniquement ça d'extérieur, c'est un phénomène. Le phénomène de l'œcuménisme, le mystère de l'unité, cette recherche de l'unité, ah, c'est important. Au plan philosophique, quand j'ai fait toutes ces expériences de l'unité, qu'est-ce que je vois ? C'est que je vois que l'unité est toujours un fruit, une conséquence, c'est jamais premier. C'est ça qui est très curieux. Dans l'art, vous ne cherchez pas l'unité pour l'unité. Qu'est-ce que vous feriez autrement ? Rien du tout, vous n'oseriez plus. et ça deviendrait formel et complètement vide. Dans l'amitié, vous ne cherchez pas l'unité pour l'unité. Dans la politique, vous ne cherchez pas l'unité pour l'unité, ça stérilise tout. Ah, c'est la première constatation qu'on fait. Alors là, vous voyez, c'est la condamnation de Platon et du néoplatonisme. Et la parole d'Aristote devient très vraie. Platon a manqué d'expérience. Parce que dans l'expérience que vous faites de l'unité, l'unité n'apparaît jamais comme un absolu. C'est très important. Puisqu'il n'y a pas cette unité, il y aura la déségrégation. Et l'unité est le signe de la victoire. Et donc c'est très important, c'est ça qui me donne l'espérance. S'il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'espérance. C'est le signe de la victoire. Mais ce n'est pas la victoire, c'est le signe. C'est donc ce bon. C'est ce qui se manifeste. C'est ce que je vois, c'est ce que je constate. C'est donc ce bon, c'est pas premier. Je crois que la première constatation qu'on fait, et c'est intéressant par rapport à Platon et au néoplatonisme, toutes les expériences que vous faites de l'unité dans tous les domaines, c'est jamais premier. L'unité n'est donc pas une fin. C'est pas quelque chose que vous cherchez pour soi. Et si vous mettez l'unité en premier lieu, vous risquez toujours de tomber dans le formalisme. Alors, tout de suite, vous pouvez vous poser la question, et c'est intéressant, est-ce que le formalisme n'est pas du néoplatonisme où on cherche l'unité pour elle-même? Je crois. Vu de l'extérieur, quelquefois, on dira l'unité du vêtement religieux, c'est du formalisme. Vu de l'extérieur, alors que ça ne l'est pas. S'il y a une unité vitale de recherche de vérité, mais s'il n'y a plus unité vitale de recherche de la vérité, ça devient un uniforme. L'uniforme scolaire qui cache la diversité. Il n'y a pas d'unité. Et vite, vite, le plus vite possible, on l'enlève. Hein? Quand vite, vite, le plus vite possible, on enlève le religieux, c'est que l'unité est devenue formelle. Et que ce n'est plus une unité de vie. Mais pour que ce soit une unité de vie, l'unité n'est pas recherchée pour elle-même. Et je crois que c'est la première constatation qu'on doit faire, ça, au point de vue philosophie, parce que ça explique des quantités de choses au point de vue de notre vie. Si vous recherchez l'unité pour elle-même, vous tombez dans le formalisme. Vous tombez dans l'académisme. Au point de vue art. Dans le formalisme au point de vue de la vie. Et vous voyez ce que je vous disais l'autre jour pour l'œcuménisme. Chercher l'unité pour elle, on va chercher à tout prix l'unité. Et on supprimera la finalité profonde qui commande la diversité. Et on essaiera d'unifier par la matière, par le genre. Ça ne me dit pas encore ce que c'est que l'unité. Hein. mais ça montre ce qu'est le très grand